19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est un plaisir. Plaisir puisqu'on démarre une toute nouvelle semaine. Oui, une toute nouvelle semaine avec évidemment trois sujets qui ont retenu notre attention. Vous êtes plus que jamais nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux quotidiennement. Et vous savez, un mot, je vous en remercie infiniment. Voilà, 19h-20h, tout ce que je vous ai concocté dans ce menu pour vous accompagner. Alors tout d'abord, le premier sujet qui a retenu notre attention. Candidat, pas candidat, ça on ne le sait pas. Mais bon, lui-même il ne le sait pas encore. Je fais référence à Emmanuel Macron, qui dément avoir souhaité une hausse, justement, de se dire « Bon, j'ai fait ma déclaration, mais pour le moment, j'assume mon statut de chef de l'État, mais également aussi du président du Conseil européen. » Deuxième sujet qui a retenu notre attention. Eh bien, nous irons nous intéresser à Christiane Taubira. Tiens, ses détracteurs sont sortis, ou plutôt ont sorti leurs griffes, puisque ça attaque de tous bords. Paraît-il qu'elle a une attitude peu respectueuse. Tiens, tiens. Eh bien, on ira creuser un peu plus, décrypter qui est vraiment Christiane Taubira. Et puis ensuite, vous savez quoi, Nicolas Sarkozy. Alors lui, on a du mal à le suivre. Parce que c'est vrai, est-ce qu'il préfère attendre que Emmanuel Macron officialise sa candidature pour le soutenir? Ou est-ce qu'il est gêné, embarrassé pour soutenir Valérie Pécresse qui n'a pas encore le charisme suffisant? Je pose la question, ne me tombez pas dessus. Ou Nicolas Sarkozy essaye de concorder tout cela, vous savez, tout simplement, avec un calendrier. On en parlera tout à l'heure. Trois débatteurs autour de ce plateau, influenceurs bien sûr, qui viendront confronter leur point de vue. À 19h30 précise, c'est Maître Philippe Honegger et son billet comme chaque lundi, avec sa signature juridique, qui viendra nous livrer son point de vue sur le regard. Et puis, vous partout en France, un numéro à noter, 01 53 48 3000. Ça, vous l'avez enregistré. Vous nous appelez durant une heure, évidemment, à n'importe quel moment. Le standard est ouvert et vous venez nous livrer, échanger avec nous comme vous le faites à chaque habitude dans les informés. D'ailleurs, même interpeller les débatteurs. 01 53 48 3000. Allez, c'est parti. Voilà le menu. Les informés plus que jamais. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Aïe, qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ça va, on vous dérange pas?
Ça va, ouais, ça va monsieur, c'est monsieur Benjibour qui est dissipé.
Vous savez que je me suis je me suis retenu, maintenant je peux tousser. Mais... à cause de ces pop-corn. J'en ai avalé à travers. C'est quoi, il est encore. Ouais, c'est ça, tu
moi, peux je, la... moi je balance. Hein. Moi
je balance. Je vous jure, je l'ai avalé à travers.
Hein. C'est monsieur Benjibour qui fait des bêtises.
Maintenant je peux tousser. Il est resté coincé. Je te jure, c'est vrai, à cause de toi.
Tant que c'est pas le Covid.
Benjibour, à cause de toi, j'ai avalé de travers. Bon.
L'excellent
Benjibour. Bonjour, Mohamed Benjibour.
Bonjour, comment ça va, monsieur Farkan?
Mais ça va bien. Consultant en communication. Tout va bien?
Ça va bien. Ça va bien.
Bon. Vous êtes au téléphone ou qu'est-ce qui se passe?
Non, pas du tout. Ah bon? Bah oui. Toujours j'avais deux masques et là j'ai.
Comme c'est un businessman, hein, on dirait, il gère les affaires.
Non, pas du tout.
Akli Melouli, maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne. Comment ça va, mon cher Akli?
Ça va, monsieur Adil, très bien. Très heureux d'être là, en si bonne compagnie. Et puis très heureux aussi de. Ben, vous avez annoncé de faire la première de quelqu'un qui nous rejoint, qui rejoint l'équipe, ouais, et c'est toujours un plaisir.
Vous savez quoi? Akli, il vient toujours il vient toujours avec un sac plein. Vous savez, il ramène sa corbeille et il me dit, Adil, regarde maintenant, tu dois prendre un tel.
C'est faux, je dis pas, j'ai fait.
Parce que, mesdames et messieurs les auditeurs, il m'impose des débatteurs avec les mélodies. Vous voyez, rendez compte comment il joue dans mon cerveau. C'est un influenceur qui joue dans mon cerveau. Je dénonce cela avec les mélodies. Non, bien sûr. Rafik Temgari.
Merci.
J'ai pas écorché votre nom?
Non, du tout.
Tirez bien le micro devant vous. Hein.
Très
faites
bien.
Pas de votre timide, attention.
Non, du tout, c'est une
première. attention, avec Akli, c'est... ah si, je crois qu'il va vous bisouter, vous allez voir, Akli Melouli. Vous êtes conseiller municipal délégué à la communication sur Rueil-sur-Mal. Rueil-ma-Maison.
Tout à fait, exactement. Je suis élu à Rueil-ma-Maison.
Chez les bourgeois.
Hein, les bourgeois, nous...
C'est les bourgeois là-bas, c'est pas le 93, c'est les bourgeois.
C'est une très très belle ville que je vous invite à visiter et que j'invite l'ensemble des auditeurs à visiter notre...
Même dans le temps, c'est les bourgeois. C'est pas la même chose. Hein.
Ah oui, non, pas la même chose. Nous, on a pas, nous c'est vraiment la bourgeoisie.
Comment il parle comme un bourgeois. on rigole,
en plus, il y a un haut cadre et tout.
Ouais, mais... C'est ça. Bon, en tout cas, bienvenue, Temgari, Rafik, pardon. C'est parti, messieurs, tout de suite avec ce premier sujet. Tout de suite, je fais référence à Emmanuel Macron dans la Creuse. Tout le monde l'attendait, évidemment. On pensait qu'il allait officialiser la candidature. Eh bien non, elle est imminente, certes. Mais en tout cas, sachez qu'Emmanuel Macron, lui, a décidé de ne pas annoncer sa candidature, elle, même si elle était rapide pour beaucoup, dans cette séquence européenne, dans la Creuse. Écoutons un petit extrait, si Yanis a retrouvé, bien sûr, il l'a retrouvé. Écoutons ce petit extrait, un échange avec un lycéen concernant sa candidature.
J'ai une question totalement à part.
Bien sûr.
J'ai 18 ans et enfin, du coup, ça va être ma première élection.
Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Si tout était réglé. Si tout avait été réglé, c'est pas le cas. Donc il faut. Oui, mais il faut jusqu'au dernier moment. Après j'annoncerai ma décision en temps voulu. Mais je pense qu'en tout cas, par exemple, en vous inscrivant sur les listes, en vous intéressant à ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir du pays. Et en allant voter, c'est très important.
Oui,
mais c'est le droit de voter. C'est un droit qui a été conquis. Ah, donc qui crée une forme de devoir. C'est même un devoir.
Bah, les jeunes vont l'accompagner.
Et donc s'intéresser au fond des programmes, des propositions des uns des autres et faire votre choix de citoyen libre, je pense que c'est essentiel.
Il dit des choses, moi, qui m'interpellent. Et je suis complètement d'accord avec lui. Il dit, bon, passons sur la candidature. Il dit, allez vous inscrire sur les listes doctorales. Allez vous intéresser au programme et après vous faites votre choix. Ah bon, je dis oui à Macron, Mohamed Benjebour.
Non, mais alors il fait une révélation.
Ça fait rire à Clive et Lully. Il fait une révélation, vous avez raison.
Non, mais déjà, vous êtes soupçonné un peu d'être macroniste.
Pas du tout. Non, mais moi, ça me parle, ça. Moi, je le dis toujours à l'antenne.
Évidemment,
je le dis. Je le dis. Je dis qu'il faut aller accomplir son devoir civique.
Voilà. Adil, ce qu'il dit, l'eau, ça brûle, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et c'est bien. Voilà, il joue son rôle de président de la République. Non, je dis qu'il fait une révélation parce qu'il dit j'annoncerai au dernier moment. Et il a raison, parce que d'abord pour des raisons de compte de campagne, c'est son intérêt de ne pas se présenter tout de suite, enfin de ne pas officialiser sa candidature. Et enfin, pardon, mais c'est à partir du moment où il descendra sur le ring, il prendra des coups. Donc c'est son intérêt d'être aux affaires et de s'occuper des Français et de la France. Voilà.
Rafik.
Oui, alors moi je pense qu'aujourd'hui on est à moins de 80 jours des élections. J'ai fait une petite analyse de l'ensemble des précédents présidents de la République.
Ça nous intéresse, allez-y.
Il va arriver aux 33 jours de De Gaulle et de Mitterrand.
Exactement, donc si on commence par Général De Gaulle, c'est 33 jours.
Vous avez été faire son calcul ?
Tout à fait.
Mais tous, oui. 80, oui, les gens, c'est 69 jours.
65 jours pour la candidature de Valéry Giscard d'Estaing.
Et 69
pour François Mitterrand. 69 jours pour Jacques Chirac et 67 jours pour Nicolas Sarkozy.
Voilà.
Wow.
Et 33 pour Mitterrand.
Loin de cette moyenne de l'histoire des présidents de la République.
Ce qui veut dire en gros
Il a encore du temps pour annoncer sa candidature, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il est encore assez confortable dans les sondages. Donc aujourd'hui, les sondages le mènent en position première, qu'on le veuille ou pas, à l'ensemble des sondages. Donc il est assez confortable dans ces sondages-là. Et je pense qu'il attendra le dernier moment pour pouvoir profiter encore de cette tendance-là positive qui est pour lui.
Vous êtes d'accord avec ça
Oui, bah, de toute façon, je suis plus que d'accord, y compris avec les deux intervenants précédents, parce qu'Ahmed l'a dit, à partir du moment où il va dire qu'il est candidat, c'est les comptes de campagne. Donc là, effectivement, il minimise ses comptes. Il y a ça déjà, c'est non négligeable. Et en plus, à partir du moment où il est candidat, il rentre dans la cour de récréation. Et je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, il a pris les enseignements de ses prédécesseurs, parce que c'est quand même quelqu'un déjà qui lui conseille, et qui sait qu'il a jusqu'à, parce que c'est la délai, après c'est un peu trop court, mais 33 jours, ce qu'a fait, d'ailleurs Mitterrand a fait comme De Gaulle, ce qui est marrant, alors qu'ils se sont beaucoup opposés. Est-ce que lui, il a regardé effectivement les choses entre les 69 et les 33 jours, donc il y a quand même beaucoup de marge, on a 80 jours. Mais en même temps, il faut savoir que lorsqu'il va se déclarer, il rentre dans la cour. Donc du coup, il a plus cette hauteur, cette possibilité. Et donc je pense, comme le dit
Vous croyez qu'il y a vraiment des histoires de calcul de compte ?
Bien sûr, c'est les comptes de campagne. À partir du moment où il est candidat, tous ses déplacements et toute son expression sera comptabilisé. Là, il n'est pas comptabilisé.
Donc il a tout intérêt à...
Bien sûr, et puis il a tout intérêt à utiliser les moyens de la République, même si on peut contester, mais en tous les cas, il est en exercice, les moyens de l'Europe, il le dit d'ailleurs. Et puis, quand il dit aux jeunes, il ne faut pas lire entre lignes, allez vous inscrire, je vais dire ma décision, donc on sait que déjà, moi je vous l'annonce, hein, c'est pas un scoop, mais... je sais pas à quel moment, mais je pense que avant les 33 jours, Macron sera candidat. Mais Ouais. Je sais pas si c'est un scoop, hein,
mais ça nous amène à quoi, ça, comme date? Ça nous amène à février?
Ouais, début mars, hein, plutôt. Plus vers 7-8 mars, dans les 10 mars, ça sera dans ces eaux-là. Mais ce que je veux dire par là pour finir, c'est que, il a dit aux jeunes, allez vous inscrire sur l'électorale, regardez le programme. Enfin, il parle comme quelqu'un qui va être candidat. Il se dit, plus si j'arrive à le convaincre, et puis vous voterez pour qui vous voudrez. Et puis vous voterez pour qui vous voudrez. Mais si vous votez pour moi, derrière, il oublie de, il faut lire la ligne derrière. Mais si vous votez pour moi, c'est très bien, hein. Mais allez-y quand même, inscrivez-vous.
Ah, vous pensez qu'il dit ça?
Bah, bien sûr.
Attendez, écoutez. Non, mais c'est important parce que. Moi, je veux pas qu'on se. Attendez, juste si vous permettez, ouais, à Climelouli, réécoutez l'extrait.
Je veux qu'on. Non, mais je veux qu'on décrypte.
Non, je veux que cette séquence dans la Creuse, avec l'échange avec le lycéen, elle a quand même.
Il faut creuser, là. Là, Adil, je pense qu'il faut qu'on creuse un peu.
Il a le droit à la clochette. Il a le droit à la clochette, lui, il est fort. Écoutons.
On creuse.
On va écouter le déplacement du président de la République, justement, qui devait annoncer sa candidature, dans une séquence dans la Creuse, justement, avec un échange avec un lycéen. Écoutons.
Ça va être ma première élection.
Oui, la première élection.
Ah, ça, c'est bien.
Non, moi, en temps voulu, j'annoncerai ma décision. Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout.
Très bien.
Ça, je peux vous le dire. Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire. Mm-hmm. Si tout avait été réglé, c'est pas le cas.
Parce qu'il y a beaucoup de temps. Quoi,
donc il faut. Oui, mais il faut jusqu'au dernier moment. Après, j'annoncerai ma décision en temps voulu. Mais je pense qu'en tout cas, l'exemple que vous donnez en vous inscrivant sur les listes, mm-hmm, en vous intéressant à ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir du pays, et en allant voter, est très important.
Ah oui.
Oui, mais il faut redouter. C'est un droit qui a été conquis, donc qui crée une forme de devoir, même un devoir, bien sûr. Et donc s'intéresser au fond des programmes, des propositions des uns des autres et faire votre choix de citoyen libre, je pense que c'est essentiel.
Allez, on va avancer.
On va avancer.
Donc réponse au prochain épisode.
Moi, j'ai pas la même grille de lecture que vous, mais bon, en même temps,
il dit c'est pas fini, il faut continuer le travail, c'est assez clair quand même.
Adil, l'encourage à lire les programmes et tout ça, enfin, il peut pas dire votez pour moi, puisqu'il est pas candidat, mais en tous les cas, il est très attentif à ce que les gens s'inscrivent, les gens aillent voter, et il sait que les abstentionnistes vont pas voter parce qu'il y a l'électorat captif. En vérité, aujourd'hui, beaucoup de gens vont essayer d'élargir leur base sur les abstentionnistes, donc il est pas idiot non plus.
La symbolique, elle est là.
Rafik?
Non, je voulais dire juste symboliquement qu'un président en place a toujours intérêt de laisser le dernier moment pour se déclarer. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire.
Ouais. Je pense. Mais l'échange avec les lycéens, il est quand même intéressant. Il dit beaucoup de choses, comme dit Hakim Elouli. Hein. Il laisse entendre des choses, en tout cas.
Il est en campagne, ou pré-campagne, mais pas officiellement encore. Donc il essaye un petit peu de sensibiliser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui est normal, et n'importe quel homme politicien essaye de sensibiliser les jeunes sur cette... parce qu'aujourd'hui, on note vraiment beaucoup de décrochages vis-à-vis de l'acte citoyen d'aller voter.
Il y a beaucoup d'abstentionnisme, effectivement. Donc énormément.
Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est dans sa fonction de chef d'État, et qu'il passera le relais, il deviendra candidat officiellement le jour où il l'annoncera, mais il sera je pense que ça serait le plus tard possible.
Mohamed Benjebour.
Moi, je trouve intéressant le rappel historique de Rafik tout à l'heure, parce que ça nous dit, on n'arrête pas de dire, mais quand sera-t-il candidat? Il lui reste encore 50 jours pour être au niveau de c'était Mitterrand, c'est ça?
De Gaulle et Mitterrand.
De Gaulle et Mitterrand, les deux. Et ça veut dire que Pécresse, Le Pen, Zemmour, qui sont en train de trépigner pour pouvoir taper sur Macron quand il sera sur le ring, vont avoir du mal à attendre, mais ils vont devoir attendre, parce que son intérêt, c'est d'attendre le dernier moment, en effet. Il a un vrai avantage.
Et il a raison.
Il a une grosse base, mais bien sûr. Il a une grosse base électorale. Il fait un gros score au premier tour. Il n'y a pas de raison. Le moindre mouvement différent qui viendrait changer sa situation, forcément, sera une prise de risque. Donc il n'a aucun intérêt de bouger pour l'instant.
Hakim Elouli.
Et la Mohamed a raison, aussi, parce que même dans le débat, s'il va descendre dans la cour avec eux, pour l'instant, il laisse s'élaguer. Il est très bien dans un rôle aussi d'observateur. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi une observation des propositions des uns et des autres. Lui prépare les siennes. Donc en fait, quand il les aura bien aussi, c'est une question aussi d'analyse, de bien cerner, qui s'écharpe bien. Et lui, il arrivera. Et comme il est le favori des sondages, je parle, moi.
Oui.
Et il est sortant, comme on dirait l'autre. Et il a besoin de prendre le moins de risques possible. Donc, en fait, lui, il a besoin d'une campagne courte et claire. Alors que les autres ont besoin de se faire de la notoriété. Lui, la notoriété, il l'a de par sa fonction. C'est dur à dire, mais il a sa notoriété. Et donc, c'est comme dans les municipales. Un maire, il a une notoriété parce qu'il est maire. Et alors que le challenger, lui, doit ramer beaucoup plus. Et le maire, lui, doit éviter juste de faire des erreurs. Il y a un peu des stratégies, donc c'est là.
Autrement dit, il profite de la stature, de sa fonction.
C'est ça,
exactement. Alors, justement, on va marquer la première pause pub. Et on se retrouve dans une poignée de minutes. Le standard, je l'ouvre. 0153483000. Vous venez, vous intervenez, vous échangez avec nos débats. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h21, le jingle, oui, justement, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On vous attend pour échanger avec nos débatteurs influenceurs justement, ou vous nous donner votre avis sur Macron et sa candidature. Est-ce qu'il a tout intérêt à attendre, justement faire durer le suspense, faire comme De Gaulle ou encore Mitterrand, attendre justement 30 jours avant de déclarer sa candidature, ou est-ce qu'il faut qu'il la fasse maintenant, ou alors, voilà, pour vous ça ne change absolument rien, et vous avez déjà votre propre idée. On vous attend au 01 53 48 3000. 19h22 bientôt, les informés c'est avec Aklim et Loli, les informés c'est avec Rafik Temgari, pardon, et aussi les informés c'est avec Mohamed Benjebourg. Messieurs, juste pour finir sur la séquence de Macron, est-ce que on peut considérer parfois qu'il a des notes de campagne quand il est en plein déplacement présidentiel? Est-ce qu'il profite pas de son statut de chef d'État pour faire passer des messages? Et certains d'ailleurs lui disent que bon, il est en campagne sans l'être. Mohamed Benjebourg.
C'est la règle du jeu. C'est toujours, on critique toujours les présidents d'exercice qui préparent leur campagne de réélection. Mm-hmm. Et il joue son rôle et voilà, il prend cet avantage. C'est un avantage acquis, comme on dit en business.
Est-ce que ça lui permet pas de peaufiner sa stratégie, vous, l'homme de communication?
C'est de tester effectivement certaines idées, de les jeter en l'air,
ah, c'est ça que je
voulais, voir comment elles retombent. Et c'est totalement une façon aussi de tester les
Rafik Temgari.
Oui, comme je disais, moi je pense qu'il profite un petit peu des privilèges de sa stature, de sa fonction. Aujourd'hui, les sondages sont à son avantage, donc il profite au maximum. Et demain, je pense que s'il y a un sondage qui est un petit peu pas bon, il va se lancer. Il est obligé.
Donc. Il est obligé. Aklim et Loli.
Moi, effectivement, dans ce que vous dites, c'est ce que je disais, et je suis d'accord, pardon, excusez-moi, mais... effectivement, lui, il teste ses éléments de campagne, ses éléments de langage, ça lui permet de faire le travail, et puis de choisir le moment où il va rentrer. Tout le monde l'attend. En plus, ça a le don d'agacer les autres. Oui, et plus ça agace ses concurrents, plus ça le valorise, plus ils sont agacés, plus ils risquent de faire des erreurs. Lui, en fait, il attend et il a dans son rôle d'observateur, il a raison, Ahmed. Ça lui permet de roder ses éléments de campagne, ça lui permet de préparer sa campagne. Et effectivement, aujourd'hui, ça lui permet surtout de faire campagne sans être candidat.
C'est pas mal ça.
Et puis de ouais. Dire, pardon Adil, de dire il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Moi je suis aux manettes au profit des Français. Voilà.
Second sujet, messieurs, qui a retenu notre attention aujourd'hui, je vais parler de Christiane Taubira. On en a déjà parlé effectivement, mais sauf que là, effectivement, eh bien, vous savez, l'ancienne ministre de la Justice, sous François Hollande, n'a pas laissé de bons souvenirs chez des anciens camarades, des anciens collègues du gouvernement. Eh bien, les critiques tombent et elle se réveille depuis qu'elle est lancée dans la course à l'Élysée. Alors, ils disent clairement qu'elle avait une attitude peu respectueuse. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on n'est pas en train de régler ses comptes? Rafik, tiens, Temgari.
Alors, moi, je pense que sincèrement, pour moi...
Est-ce que vous êtes surpris ou pas, etc.
Non, du tout, parce qu'on a déjà eu des échos comme quoi elle était un petit peu arrogante, etc. Mais il suffit juste de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la gauche. Pour moi, ça reste quand même l'image d'une gauche qui est très très faible, qui est pratiquement cassée. Pour moi, c'est une partie... Il y a une démotivation, il y a vraiment une colère. Aujourd'hui, il y a une très grande abstention chez les électeurs de gauche, donc un autre point, je pense que il y a vraiment un échec pour rassembler la gauche. Aujourd'hui, il y a eu énormément de personnes qui ont essayé, mais l'échec, il est là, il est constant. Je pense que la gauche, elle est vraiment à refaire complètement.
La gauche est à refaire complètement, mais Christiane Taubira, justement, parce que j'ai le sentiment depuis qu'elle est candidate, elle dérange certains, et comme elle dérange certains, eh bien c'est le moment de sortir justement. De vider le sac, j'ai l'impression que régler ses comptes, est-ce que c'est le moment?
Moi, je, enfin,
plus respectueuse, etc.
S'il y avait, je pense que les peaux de banane, on les met à tout le monde. Et moi, je dirais, il n'y a pas de raison qu'elle n'y ait pas droit. Mais c'est vrai que Christiane Taubira est une femme de caractère. Après, on vient lui dénoncer ses mauvaises manières.
Et de caractère disant, et de dire peu respectueux, c'est pas la même chose.
C'est pas
la même
chose. C'est pour ça que je dis. Alors, savoir ce qu'il dit pas sûr, parce que moi, je connais aussi, je pourrais dire aussi beaucoup de choses sur certains. J'en connais beaucoup qui sont peu respectueux. Et ils sont beaucoup moins respectueux que l'est Christiane, qui est une militante. Et ça, je trouve que c'est un peu ce genre de peau de banane. C'est effectivement.
Mais pourquoi elle se fait dézinguer là maintenant? Pourquoi?
Parce qu'elle est candidate.
Oui, mais parce
Adil.
Que.
Adil. À partir du moment, je vais vous dire, regardez, oui, c'est bon, simple aussi. Bon, à partir du moment que vous êtes dans le peloton, personne joue contre vous. Regardez le Tour de France pour prendre du Massigui sur le foot. À partir du moment où vous prenez la tête du peloton et le maillot, et vous voulez jouer le maillot jaune, vous avez tout le monde qui se lie contre vous. Tous ceux qui voudraient le maillot. Donc moi, au-delà de ça, je pense que Christiane vient rajouter de la confusion sur sa candidature. Mais mais on peut pas l'empêcher, la salir, comme certains le font parce que, effectivement, elle est.
Ah là, ça désingue, ça y va fort.
Non, mais, Adil, je finis. Christiane n'est pas quelqu'un de facile, mais je sais que c'est une militante. C'est une vraie militante. C'est une combattante. Et peut-être qu'elle dérange. Mais en même temps, je crois que les autres aussi ne sont pas des gens simples ou des gens faciles. Et donc, aujourd'hui, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et moi, ce que je veux dire, ce qui me gêne le plus, moi, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de faire une présidentielle de la gauche.
Ouais.
Et, alors qu'on devrait parler aux Français. Et là, ça, c'est un peu dérangeant dans le cadre de la présidentielle. Mais ça ne concerne pas que Christiane, ça concerne l'ensemble de la gauche.
Alors, Mohamed Benjebour.
Je ne sais pas qui elle dérange, en fait. Parce que Akli, avec tout le respect que je dois au grand frère Akli, elle est le maillot jaune de quoi? D'une micro-gauche aujourd'hui. Parce
c'est
que,
ce que je te dis.
Rafik parlait de la division. Moi, je vais parler du volume total gauche qui est très très faible. Donc, la gauche, c'est un peu comme. Ce qu'avait prédit Ibn Khaldoun sur les Arabes, c'est ils se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Donc, vu l'état dans lequel les partis de gauche sont et la gauche dans sa globalité est, franchement, c'est juste des vengeances personnelles et ça n'a
pas
d'intérêt.
On parle même d'intolérance. On dit qu'elle est intolérante.
Ouais. C'est qui Valls qui dit ça?
Non, mais bon, j'en sais rien, moi, les gens, ils n'ont pas balancé.
C'était une question.
Ouais. Rafik et Tamgari.
Alors, moi, je pense qu'elle a déjà un passif. Il ne faut pas oublier que 20 ans auparavant, elle a annoncé sa candidature face à Lionel Jospin et elle a fait beaucoup de tort. Donc, je me dis qu'il y a un passif pour cette candidate. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ambiance très tendue entre les candidats, avec les différents candidats de la gauche. Je me mets à la place d'un électeur de gauche, alors que je suis pas du tout, c'est pas du tout ma famille politique. Je dirais que aujourd'hui, c'est quoi la différence majeure entre les programmes? Aujourd'hui, on ne connaît pas.
Oui,
on connaît
vrai.
Pas quel est le programme. Alors, autant à la droite, on arrivait à savoir Éric Ciotti où est-ce qu'il est positionné, Valérie Pécresse, etc. Aujourd'hui, pour la gauche, on n'a aucune différence entre un programme d'Arnaud Montebourg ou Anne Hidalgo, où aujourd'hui, les électeurs de gauche n'arrivent vraiment pas à savoir ce que c'est la différence entre les différents programmes.
Tiens, je vais aller m'intéresser justement aux auditeurs qui nous appellent au 01 53 48 3000. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
J'ai Assina de Paris qui nous appelle. Assina, bonsoir. Bonsoir Assina.
Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute ma chère Assina.
Merci. J'aimerais répondre.
Oui.
Au monsieur qui dit à chaque fois, Ibn Khaldoun, il a dit ça.
C'est Mohamed Benjebour, il vous écoute.
D'accord, il n'y a pas de... Après la chute de l'Andalousie, les bibliothèques ont été brûlées. Donc la vérité a été falsifiée. Donc arrêtez de répéter ça. C'est comme ça que vous rabaissez les Arabes en répétant, il n'y a pas que cette phrase-là. On ne sait pas si c'est vrai. Puisque les bibliothèques, après la chute de l'Andalousie, a été brûlée, toutes les bibliothèques. Donc, la vérité, elle a été falsifiée, changée, comme ils ont voulu ceux qui sont contre les Arabes.
Et il va vous répondre. Merci Assina.
Oui. Pardon.
Et ben il va vous répondre Mohamed Benjebour. Merci en tout cas pour votre intervention Assina.
Merci.
Merci à vous, merci. Ils sont cash, elle ne tourne pas.
C'est très bien, mais elle a raison.
Sans détour, elle vous pose la question.
Hassina, je ne vais même pas débattre sur la véracité historique, parce que moi, bon, voilà, sur le fond du sujet, en revanche, je ne peux pas vous laisser dire qu'on rabaisse les Arabes. Moi, je constate, en tant qu'Arabe, moi-même, que malheureusement, on ne se met pas d'accord assez souvent et quand il le faut. Voilà. Donc ça, c'est un fait acquis, et si vous voulez, on peut en débattre, je ne sais pas ce que diront mes collègues autour de la table, mais voilà.
Bon, eh bien, écoutez, de toute façon, ici, on regardera de ça et très, très attentivement. Je vais accueillir... Qu'est-ce qu'il y a avec les Mélouli ?
Sur ce que disait Rafik par rapport à 2002, c'est intéressant parce qu'il y avait 5 candidats de gauche.
Oui.
3 qu'on a qualifiés d'extrême gauche. Il y avait aussi beaucoup de candidats à droite. Il y avait même 2 du Front National, Maigret et Le Pen. Donc on oublie ça. Il y avait 5 candidats. Et on a dit que la seule responsable de la défaite de Jospin, c'était Christiane Taubira. Pourquoi elle et pas les autres? Pourquoi pas Robert Huche, Venement, etc. Donc à un moment donné, il y a aussi quelque part peut-être dans l'impensée collective quelque chose qui fait que on a du mal avec effectivement la diversité que représente aussi Christiane Taubira. Et ça, il faut faire attention que le climat ambiant ne soit pas délétère et ne la renvoie
elle
pas.
Elle est déjà
à la
signe
pas à résidence.
Mais non, il mais est déjà.
Je sais, c'est pour ça que je dis.
On est en plein
à l'époque, on accusait que elle de la faire perdre, les autres étaient là.
Mais c'est là où le bas blesse, justement.
Lui était là, tout le monde était là.
L'idéal, c'est d'apprendre de l'ensemble des leçons.
Allez,
je pense que 20 ans après, il faudrait vraiment que Christiane Taubira...
Messieurs, on reprend le débat tout de suite après, on a pris une minute de retard. C'est le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, c'est avec Maître Philippe-Henri Honegger chez Ruben et Associés. Bonsoir, mon cher maître.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ben, ça va bien. Ça va
vous avez
bien.
Décidé de consacrer votre billet d'humeur, eh bien justement, au regard de la loi sur le reportage de Zone Interdite d'hier soir. On vous écoute.
Ben oui, c'est difficile de pas parler de ce dont tout le monde parle depuis hier soir, c'est-à-dire ce reportage qui a été diffusé sur M6 dans Zone Interdite, dans lequel on a pu voir la description de ce qui était démontré ou ce qui était montré comme l'islamisation en France à travers l'exemple de la ville de Roubaix. Et notamment, ce qui a beaucoup fait parler, vous savez, c'est cette description d'une rue de Roubaix dans laquelle on trouvait plusieurs boucheries halal, des librairies dans lesquelles on avait des livres qui défendaient, ou en tous les cas qui décrivaient les règles d'un islam rigoriste, des poupées sans visage.
C'est ça.
Et également cette association...
On parle que de ça depuis ce matin.
Voilà, cette association qui, sous prétexte, en tous les cas c'est ce qu'on en disait, de donner des cours de soutien scolaire, aurait donné des cours coraniques. Ce qui est très étonnant, enfin en tous les cas ce qui m'a beaucoup étonné, c'est cet énorme phénomène de rejet qui a été exprimé par rapport à cela, une forme de peur aussi, avec pas mal de gens qui ont quand même défendu cette idée que ce qu'on pouvait voir dans ce documentaire devrait être interdit, que c'était une forme de séparatisme qui serait interdit par la loi. Et c'est très très étonnant parce que ce que ça vient manifester, c'est à la fois, à mon sens, une grande méconnaissance du droit,
oui.
C'est de ça dont j'essaye de vous parler, mais aussi quelque part une forme d'incitation à la haine qui, elle, est punie par la loi. Et qui devrait révéler un débat qui est bien au-delà de celle du droit. Ce que je veux dire par là, c'est que le séparatisme en France, vous savez, il est défini par un seul article de loi qui parle pas du tout de ça, qui parle de propos qu'on a par rapport à des fonctions publiques et autres. Le séparatisme en France, c'est-à-dire le fait de vivre en communauté, le fait de vouloir s'isoler des uns et des autres pour des raisons philosophiques, religieuses ou d'autres, ça n'est pas interdit. Vous pouvez, par exemple, décider d'aller vivre au fin fond du Larzac, dans une communauté qui mange que du bio et qui n'utilise pas d'électricité parce que c'est votre philosophie de vie. Et il existe en France ce qu'on appelle la liberté religieuse et de culte protégée par la loi de 1905 et qui fait qu'en gros, aussi extrêmes que puissent être vos pratiques, aussi rigoristes que puissent être vos pratiques, religieuses ou philosophiques, vous avez le droit de les pratiquer tant que vous ne portez pas atteinte aux troubles à l'ordre public, c'est-à-dire en gros, tant que vous ne commettez pas des violences, vous ne gênez pas l'exercice des autres. C'est ce qui permet notamment, vous savez, aux chrétiens de s'enfermer dans des monastères, de faire des vœux de silence,
exact.
De chasteté, de s'imposer des pénitences physiques, parfois extrêmement violentes. C'est ce qui permet, par exemple, aussi aux juifs, par exemple, dans certaines villes, d'avoir des quartiers ou des rues entières. On peut penser dans le Marais à Paris, dans lequel on a des boucheries cachères, dans lequel on a des librairies judaïques, dans lequel on a des lieux dans lesquels les hommes et les femmes décident de vivre séparément, de ne pas se mélanger derrière des voiles, comme on a pu voir dans le documentaire. En fait, rien de très différent de ce qu'on a pu voir dans le documentaire, si c'est que dans le documentaire, à partir du moment où on est, j'allais dire, le label islam, on a l'impression que ça devrait être interdit, on a l'impression que c'est extrêmement dangereux, parce qu'on a cette vieille rengaine du terrorisme qui est derrière, et il faut pas nier la réalité d'un islam radicalisé et terroriste qui, contre lequel on doit absolument lutter, parce qu'il est dangereux. Mais ce qui est très 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 inquiétant, c'est qu'à partir du moment aujourd'hui où on montre des images de gens qui pratiquent l'islam dans les règles de la loi, sous la protection de la loi, tout d'un coup on a ce rejet qui est exprimé. C'est d'autant plus inquiétant que, vous savez, on parle de cette école, on parle de cet endroit où on faisait des cours scolaires, où il y avait des cours coraniques. Effectivement, c'est interdit parce que c'est financé par l'État. C'est interdit sous réserve, parce que vous savez qu'en France, on peut enseigner la religion en étant financé par l'État. C'est en Alsace-Moselle où il y a une règle spécifique, c'est-à-dire qu'on n'est pas absolument choqué par cette idée-là en France. Vous savez que la charia en France, elle est appliquée sur l'île de Mayotte, où encore aujourd'hui, on utilise des règles islamiques très anciennes pour résoudre certains conflits civils. C'est-à-dire que l'idée même que l'islam puisse avoir une influence dans la vie des gens au quotidien n'est pas totalement étranger aux lois de la République française. Ce qui est en fait particulièrement regrettable, c'est qu'ici, on vient faire une confusion des genres terrible entre le droit et la morale. Le droit permet à ces choses d'exister. Le droit doit protéger ce genre d'expression du culte et de la religion, et c'est tant mieux. Mais si jamais on n'est pas d'accord avec ça, et on peut l'être, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec le fait d'avoir une pensée philosophique qui méprise les femmes ou les hommes. Peut-être qu'on n'est pas d'accord simplement avec l'idée qu'on puisse croire dans un dieu ou pas. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec certaines pratiques alimentaires, manger bio, ne pas manger d'animaux, ne pas manger de porc, ne pas manger de pélican. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est pas une question de loi, c'est une question de morale, c'est une question de débat, c'est une question de société civile. Et tous ces gens qui essayent absolument de mener ce débat sur changer la loi, changer la loi, changer la loi, en réalité, ils incitent à la haine raciale, ils vont à l'encontre de ce qu'ils voudraient, et ils devraient beaucoup plus se concentrer sur le débat moral, civil, de savoir quelles sont les bonnes règles pour vivre ensemble, plutôt que d'essayer de trouver toutes les règles qui vont permettre d'exclure au maximum les gens qui essayent de vivre ensemble.
Franchement, bravo pour ce billet d'humeur. Excellent, comme chaque lundi d'ailleurs. Merci de nous avoir rappelé effectivement les règles. Maître Philippe-Henri Honegger, cher Ruben, associé, à lundi prochain sans faute.
À lundi prochain, oui.
Prenez soin de vous, bonne soirée. On marque la seconde pause. Pub et on se retrouve dans une poignée de minutes avec Akli Meloli, avec Rafik Temgari, avec Mohamed Benjebour, mais vous aussi au 0153 48 3000. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, notamment les deux derniers sujets qui nous restent, Christiane Taubira et évidemment cette polémique qui jaillit, qui sort désormais depuis ce matin, des critiques concernant sa candidature. Moyennement accepté dans son camp. Et puis on parlera de Nicolas Sarkozy. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h40, 01 53 48 3000, on vous attend concernant Christiane Taubira, mais également Nicolas Sarkozy. Venez nous donner votre point de vue, le standard est ouvert au 01 53 48 3000. Les informés avec Akli Meloli, avec Mohamed Benjebour, avec Rafik Temgari. Vous vouliez dire quelque chose, Mohamed Benjebour, concernant Ibn Khaldoun?
Non, qu'il faut relire Ibn Khaldoun, parce que les livres sont encore disponibles, même si beaucoup des bibliothèques d'Andalousie, ont été brûlées. Mais
l'Empire médiéval, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Non?
Ouais, absolument.
Oui, je pense. Hein. Enfin, les historiens.
Il y a plein de livres.
Oui, les historiens sont là, encore. Messieurs, allez tout de suite sur la candidature, et ensuite, après, on passe au dernier sujet. Finalement, est-ce qu'elle peut s'en sortir, évidemment, malgré ses vives critiques, Christiane Taubira, avec ce fort caractère, cette trempe? Est-ce que Christiane Taubira peut incarner cette gauche comme Mélenchon, finalement, qui a réussi à le faire? Non.
Non, pour moi, non. Pour moi, pas du tout.
Vous
parce
êtes catégorique.
Que déjà, entre eux, ils sont pas du tout tendres entre eux. Et je pense que la droite a bien montré cette bienveillance entre les différents candidats, qui n'existe pas à la gauche. À la gauche, aujourd'hui, c'est des coups poignards dans le dos et que ça avance que comme ça. Aujourd'hui, je pense que si la gauche, elle arrive un petit peu à être un petit peu bienveillante les uns envers les autres, peut-être qu'ils vont réussir à avancer. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour moi,
c'est
la
pas
gauche.
Le cas. Pourquoi
c'est
ça prend pas la gauche à Climelouli? Je me permets de vous poser la question, puisque vous êtes du Parti Socialiste. Ça prend pas. Pourquoi ça prend pas? Qu'est-ce qui se passe?
Ça prend pas.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, la gauche, depuis 30 ans, elle a oublié de se renouveler. Donc on a vécu sur des acquis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais on peut énumérer les choses. Tous les progrès sociaux qui ont été faits dans ce pays, c'est la gauche qui les a faits. On peut raconter
des histoires. Il n'a pas le droit
à
une clochette, lui.
J'ai le droit à une clochette.
Objection.
Ah oui, et... Non, il n'y a pas objection.
Ah bah justement, on peut reprendre les gens. Objection. Si vous n'êtes pas d'accord.
Graphique. Dis-moi, quelle mesure de droite a été mise en place pour faire le progrès social?
Exactement.
Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Chirac?
Il a fait plein.
Mais il fait quoi?
Moi, je
ne
suis pas débatteur, mais bon.
Mais je veux dire, il a fait quoi?
Il faut dire qu'aujourd'hui, la gauche, vis-à-vis de différents Français, a fait beaucoup de mal aussi. Elle a fait énormément de mal. Aujourd'hui, sur la partie libéral pour la partie des 35 heures, etc., c'est la gauche.
Ah oui, donc, mais ça, donc, pour moi, voilà, ce que vous, je comprends, Rafik, mais toi, ce que tu vois comme une mauvaise chose, moi, je le vois comme une avancée, et d'ailleurs, on doit aller vers les 32 heures. Mais vous voyez, c'est là où le débat est intéressant entre la droite républicaine et la gauche. Mais je parlais du progrès comme la Sécu, la CMU, le RSA, la protection de l'enfance, enfin, je pourrais les énumérer, mais on n'est pas là pour ça, parce qu'on n'aura pas le temps, mais je sais qu'on peut avoir un bon débat intéressant. Et donc, je dis qu'effectivement, aujourd'hui, la gauche, depuis 30 ans, n'a pas porté de nouvelles aspirations. C'est-à-dire qu'on a vécu sur des acquis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la campagne d'Anne Hidalgo, le démarrage, le parti n'a pas été à la hauteur des enjeux. Oui. Et donc, elle subit aujourd'hui le vide programmatique du Parti Socialiste. Même si elle essaye de rattraper, on a cette difficulté. Et elle a bien du courage d'y aller dans les conditions, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, la gauche, elle a du mal effectivement à être entendue. Et quand on fait la somme des voix, tout à l'heure, on le disait, c'est vrai qu'on est à 25, alors que quand on voit les préoccupations des Français, on est plutôt à 45, donc c'est pour comment, où sont ces 20% qui manquent, et donc c'est vrai que les candidats ne portent pas ces aspirations. Et là où je partage, c'est que le Parti Socialiste est arrivé à la fin d'un cycle. Oui. Et je crois qu'il va falloir que les gens arrêtent de faire du placebo, et qu'il faut effectivement juste se renouveler. Et que je pense que la gauche, dans son ensemble, doit se mettre autour de la table, comme ça avait été le cas au congrès de Dépinay en 71, où effectivement la SFIO, le CRS et le PSU s'étaient mis autour de la table pour créer une nouvelle formation politique, qui était le Parti Socialiste. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à s'user comme ça et qu'il faut porter de nouvelles aspirations.
Alors, Mohamed Benjebourg.
La force sur le terrain avec les nombreux élus dont fait partie ACLI, dont dispose le Parti Socialiste, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. J'allais dire pour Hassina, l'arabe qui cache le problème, mais je vais pas le faire. Mais c'est vrai que là, le PS devient un vrai colosse au pied d'argile qui n'a pas eu de travail sur le logiciel du parti, sur les préoccupations des Français. Je l'ai dit l'autre jour, je vais me répéter, je trouve qu'Olivier Faure a fait beaucoup de mal, peut-être pas intentionnellement, mais à l'image du parti, parce qu'il était totalement inaudible et il n'imprimait pas, comme on dit en communication politique. Donc il y a forcément un travail à faire, et Clé a raison, de renaissance, de retravail sur le fond, le logiciel, les actions de terrain, etc. Parce que à force de dire qu'on a beaucoup que c'est le premier parti de France en termes d'élus, on va bientôt oublier les électeurs eux-mêmes.
Alors, Rafik, on vous a entendu ou pas?
Oui, tout à fait, mais encore une fois, je confirme qu'aujourd'hui, la gauche, elle n'a aucune place pour gouverner aujourd'hui.
Alors, je voudrais juste dire sur Chirac, évidemment, j'ai été chercher quand même un peu. L'abrogation du service militaire, c'est lui. On parle aussi je te parle des grands chantiers. Hein. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, si vous voulez.
Adil,
on peut parler.
C'est pas un sujet, moi, je parle des sujets sociaux et sociétaux.
Le septennat au quinquennat, c'est Chirac.
La liste est trop longue. On peut parler de la sécurité,
Non, mais il y en a plein, mais je veux dire que toutes les grandes avancées ont été faites pour
le refus catégorique d'intervenir en Irak.
C'est autre chose, mais c'est des positions politiques. Mais je parlais
de la création de plusieurs musées.
Les allocations.
Dont l'immigration autour de l'islam, c'est lui aussi.
Mais la bibliothèque, c'est François Mitterrand.
La pension des anciens combattants, c'est lui.
Voilà, je sais qu'il y a eu des choses, que je parle des grandes avancées sociales. C'est pour ça que je parle de ça. Là, c'est des avancées, mais ce ne sont pas les grandes avancées. La sécu, les congés payés, mais tout ça c'est
pas
la gauche.
Mais ça, c'est pas la gauche, ça.
Ben si.
Sous le président François Hollande, on n'a pas vu beaucoup d'avancées.
D'ailleurs, on voit les effets sur le chômage.
Je reçois un SMS, la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est Nicolas Sarkozy.
C'est pas une grande avancée sociale. Parce que c'est des recettes en moins. Et justement, ça évite d'augmenter les salaires et tout ça. Donc là-dessus, on peut avoir le débat. Mais je sais que c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet.
On peut en parler parce que c'est bien le sujet.
Dernier sujet, messieurs, il faut qu'on avance absolument. Il faut qu'on avance, messieurs, s'il vous plaît, Nicolas Sarkozy. Il va soutenir qui finalement? Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, personne d'autre? Pourquoi il fait le choix de se faire attendre, Mohamed Benjebour, l'homme de la communication? Pourquoi il a décidé de se faire désirer, de se faire attendre, justement? Un silence quand même qui interroge quand même.
Un peu comme Macron, il attend peut-être un peu de voir comment les forces en présence se jauge et performe. Et puis il a surtout quelques procès et quelques suites judiciaires des affaires dans lesquelles il était présumément impliqué. Je crois aussi que comme tout bon politique, et surtout Nicolas Sarkozy...
Mais c'est ambigu quand même de la part de Nicolas Sarkozy.
Ouais. C'est mauvais pour l'image de Pécresse ou pas, parce que, enfin, pour la campagne de Pécresse ou pas, parce que on peut considérer
ça
aussi
sent pas
qu'un
bon.
Soutien... Non, mais on peut considérer aussi qu'un soutien de Nicolas Sarkozy, compte tenu de son statut aujourd'hui judiciaire,
ah oui, qui l'entache.
Puisse être un coup de pied de l'âne, quoi. Donc, je suis pas certain... Je pense qu'il attend de voir un peu ce qui se passe sur les suites judiciaires et puis de monnayer éventuellement son ralliement à Macron ou pas ou le fait de se positionner pour handicaper tel ou tel candidat.
Rafik Temgari.
Oui, moi je pense que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien chef de l'État, il n'a pas à se mettre en valeur aujourd'hui. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il va se prononcer. Il se prononcera le jour où ça viendra. Mais par contre, je reste persuadé qu'il reste fidèle à sa famille politique. Et que d'ailleurs, ils se sont parlé avec Valérie Pécresse le lendemain de son élection. Et qu'il soutiendra toujours la droite et qu'il sera pro-Valérie Pécresse et non pas Emmanuel Macron.
Vous avez quelques sources ?
Je pense que c'est la droite d'aujourd'hui, ça reste vraiment une famille. Et c'est vrai, malgré des fractures, malgré des divergences, ils ont fait de rester vraiment une famille politique. Et aujourd'hui, sur l'échiquier, on voit vraiment le poids de la droite. Et Nicolas Sarkozy, encore une fois, sa stature d'ancien chef de l'État, je pense qu'il ne veut pas vraiment se prononcer aujourd'hui. Il prend un peu de temps, je pense qu'il finira par se prononcer, mais je reste persuadé qu'il va soutenir Valérie
donc
Pécresse.
Donc son choix à persuader Valérie Pécresse. Akli Melouli, vous dites quoi ?
Sur l'analyse de Rafik, deux choses, c'est que effectivement la droite a le culte du chef. Ça, on peut pas. Non, mais il faut dire ce qu'est la gauche. C'est la difficulté pour la gauche, c'est que la gauche, on n'a pas ce truc, on travaille sur les programmes. Et quand on travaille pas sur le fond, les idées, les programmes, la gauche est un peu perdue. À droite, eux, ils ont le culte du chef. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on suit tout ça. Ensuite, c'est vrai. Mohamed disait que ça peut être aussi à double tranchant, mais. De toute façon, dans la conjoncture, Valérie Pécresse, de toute façon, elle a besoin, même si après, ça peut être compliqué pour la suite, mais je parle de deuxième tour. Hein. Mais au premier tour, elle a besoin de la caution de Sarkozy pour bien fédérer cette droite, parce que aujourd'hui, elle a un souci, c'est qu'elle a autour d'elle une droite dure. Et c'est vrai que toute la partie chiracienne, elle est partie avec Muselier, Valentin Moin-Bertrand. On a vu que Édouard Philippe et beaucoup de donc ça c'est cette partie-là, Juppé, Chirac, tout ça est en train de se ranger vers Macron. Donc elle va avoir besoin. Et alors après, Mohamed Doué a raison, c'est que après Sarkozy va avoir en fonction d'un certain nombre de paramètres, parce que ces derniers temps il s'est quand même rapproché du président de la République pour un certain nombre de choses. Mohamed dans l'énuméré, je pense pas qu'il y ait que ça, mais après des fois il y a des proximités intellectuelles entre les gens, comme il y en a eu avec d'autres, hein, y compris de gauche, tout ça, comme à l'époque il y avait une proximité intellectuelle entre Chaban-Delmas et Mitterrand, qui était pourtant...
Je pense entre un ancien président et un actuel président, ils se parlent.
Oui, je sais, mais avec Hollande, c'est
normal. Bien sûr.
Il est plus complice que Hollande l'est, alors qu'il l'avait dans son gouvernement quand même. Hein. Donc c'est pour ça que même s'il se parle, après il y a une question d'homme. Et donc effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il a raison, Sarkozy attend de voir aussi comment les choses évoluent, mais en même temps... il a raison, ça va être compliqué de dire je soutiens Macron. Donc effectivement, la question c'est est-ce que ce sera un soutien franc et inconditionnel ou est-ce que ce sera le baiser de Judas qui fera Valérie Pécresse. Ça aussi, l'avenir nous le dira.
Et Hollande, on n'entend plus parler de lui. Tiens d'ailleurs, Hollande.
Il devait s'exprimer aujourd'hui. Hollande est là.
D'ailleurs, il veut même être candidat, je crois, il me semble. Il a dit pourquoi pas.
Aux législatives, tu parlais. Aux législatives. Aux législatives.
Oui.
Il a le droit d'être candidat aussi. Il peut être député. Il n'a pas.
Mais il redevient président, c'est député, c'est bizarre quand même. Hein.
Non, mais il peut, parce que le problème, c'est qu'il est sorti jeune. En fait, il n'a pas perdu. Il a été trahi de côté, c'est-à-dire d'un côté par Valls, d'un côté par Macron. Il a eu une stratégie qui n'a pas été payante. Il en a ajusté. Mais en même temps, on ne peut pas balayer d'un revers de main aujourd'hui. On le voit, le quinquennat de Hollande. Il y a eu des choses que je n'ai pas partagées, que je le dis, parce que moi, j'ai l'honnêteté de dire quand ça ne va pas. Je l'ai dit ici.
C'est vrai, vous l'avez dit ici.
Mais il a fait quand même des choses intéressantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le taux de chômage, le bas et tout ça, c'est aussi les incidences des décisions qu'il a prises. Parce que parfois, ce qu'on oublie de dire, c'est que les gens, parce qu'il faut du temps pour que les effets se fassent sentir. On change pas une politique en 3 mois, 3 ans, 4 ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il dit, il y a encore du travail à faire, c'est quand même une ouverture pour dire, je vais me représenter. C'est pour ça que c'est important de lire entre les lignes. Mais je pense que on a trop vite balayé d'un revers de main le bilan de Hollande et qu'on aurait dû effectivement, dans l'inventaire qui aurait été fait, et si le parti l'avait fait correctement, on n'en serait peut-être pas là. Parce qu'au bout d'un moment, quand on dit aux gens qu'on était nul, qu'on était truc, les gens ils vous disent, bon, bah, si vous servez à rien, ne venez plus. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut
vous assumer
aussi.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas
alors,
du tout d'accord. Bah moi, je pense sincèrement que le bilan de François Hollande est catastrophique, sincèrement, et qu'il est temps vraiment de changer. Parce que certes, Macron est venu pour essayer de continuer avec quelques réformes, mais c'est pas du tout, les Français ne s'attendent pas du tout à ce type de réforme. Aujourd'hui, on veut vraiment, si on parle avec n'importe quel Français, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je veux du travail, je veux de la sécurité.
Mais c'est ce qu'aujourd'hui, pense la gauche, hein.
Mais ce qu'ils n'ont pas fait.
Ils l'ont fait.
François Hollande était au gouvernement. Macron, que pour moi, il est plus, un peu plus de gauche que de droite.
On pourrait parler du bilan catastrophique du mandat de Sarkozy. Beaucoup plus catastrophique que celui d'Hollande. Surtout pour la société, sur les questions de société. Les carchères, les machins, toute cette violence, on la paie aujourd'hui. Donc il faut faire. Moi je sais
la double peine aussi.
La double peine et tout ça. Et les peines planchers, enfin tout ça.
On a vu.
Donc je finis. Je dis qu'effectivement, il faut savoir faire les bilans et poser les choses. Parce que le but est d'avancer. Moi je ne balaye jamais les choses avec
l'arrivée du marché.
Même pour Macron d'ailleurs.
Non, mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il faudrait prendre un petit peu de recul et analyser concrètement.
C'est ça.
Aujourd'hui, si on fait la part des choses, je pense que le mandat de François Hollande était vraiment une catastrophe pour la France. Ça, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, il est impératif de changer, de faire des réformes et d'avancer. Il suffit juste d'écouter les Français. Et on est là.
Rafik, c'est ton avis personnel à travers le prisme de ton positionnement politique, on est d'accord.
Aussi.
Je voulais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Rafik tout à l'heure. Il a dit la droite en ce moment, c'est une bonne famille, bien positionnée, etc. Ah, je trouve que c'était beau ce que tu décrivais, mais
c'est pas forcément la réalité.
D'abord, effectivement, le fait que ce soit, le fait qu'il y ait un culte et vraiment le culte du chef, et ça aide à effectivement
à fédérer.
Consolider, à fédérer, etc. Mais simplement, les Édouard Philippe et les jupéistes, etc., ils n'ont pas attendu cette campagne-là pour rejoindre Macron. Macron a fait un beau hold-up quand même sur cette droite gaulliste ou cette droite sociale qui se présente comme telle. Et donc, je ne suis pas certain que cette dérive droitière qu'a Valérie Pécresse, qu'elle n'a pas eu pourtant en tant que présidente de la région Île-de-France, je ne suis pas certain que ça lui réussisse, parce qu'à vouloir singer Zemmour, les électeurs vont préférer l'original à la copie. Donc là, elle a quand même un réglage à faire, quand même. Enfin, on est d'accord.
Allez, messieurs, merci à vous. C'est vrai. Dommage. Et on continuera. Non, mais on continuera d'en parler. Merci à Rafik Tabgari, conseiller délégué donc à la communication sur la ville de Rueil, ma maison. Merci.
Merci à vous pour l'invitation.
Vous reviendrez.
Avec plaisir. Je suis très content.
Vous êtes en famille là.
Tout à fait. C'est une très belle.
Vers la fin, il était bien entier.
J'ai vu. Merci à Clim et Lully.
C'est ça, la démocratie. C'est intéressant de débattre, parce que sinon on est tout seul.
Absolument, merci à Mohamed Benjibour, consultant de la communication. Merci à la réalisation à Yanis. Merci aux auditeurs 01 53 48 3000. Bilal Nedman revient dans une poignée de minutes, je suis obligé de rendre l'antenne. Time Sport, c'est tout de suite, c'est maintenant jusqu'à 21h.
Avec
Bilou, bien sûr, plus que jamais.
Et on ne lâche rien.
C'est ça, c'est le chute de la phrase. À demain.
Bizarre Hassina.
Et on lâche rien.
Voilà. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast.